VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 25 janvier 2018, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, l'ONU signale une augmentation de 146% des exécutions extrajudiciaires en 2017.
Au Tchad, plusieurs organisations de la société civile renoncent à la marche prévue ce jeudi.
Le Conseil de sécurité de l'ONU exprime son impatience face au retard persistant dans l'application de l'accord de paix au Mali.
Ici à Washington, le président Donald Trump s'est dit prêt à se soumettre aux questions du procureur spécial qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
Et ne manquez pas notre page sport avec les résultats du CHAN au Maroc ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Selon les Nations Unies, les exécutions extrajudiciaires en République démocratique du Congo ont connu une augmentation exceptionnelle de 146% en 2017, principalement en raison de la crise au Kasaï. Le point avec Eddie Isango.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, dans son rapport annuel, affirme que 1176 personnes ont été victimes d'exécutions sommaires. Au Kasaï, le Bureau a documenté que les miliciens Kamuinansapu ont été responsables de la mort d'au moins 79 civils et la milice des Banamura, considérée comme proche du pouvoir, est indexée pour la mort d'au moins 67 civils. L'ONU signale aussi que 150 militaires et 51 agents de la police ont été condamnés pour des violations des droits de l'homme dans les 26 provinces du pays, ce qui, selon l'ONU, traduit un effort des autorités en matière de lutte contre l'impunité. Cependant, les manifestations sont interdites depuis septembre 2016 et la RDC doit tenir des élections le 23 décembre 2018. D'après les Nations Unies, 6 personnes ont été tuées dimanche à Kinshasa dans la répression des marches pour demander au président Joseph Kabila de s'engager publiquement à quitter les pouvoirs.
D'autre part, la RDC a signifié hier à la Belgique sa volonté de fermer dans un bref délai la maison Schengen de Kinshasa, sorte de consulat européen. Selon l'AFP, le Congo veut également la cessation immédiate des activités de l'agence belge de développement Enabel. En condamnant les violences du 31 décembre à Kinshasa, la Belgique avait annoncé le 10 janvier une révision fondamentale de sa coopération avec les autorités congolaises jusqu'à l'organisation d'élections crédibles.
Au Tchad, plusieurs organisations de la société civile ont renoncé à une marche prévue ce jeudi à la suite de discussions avec le gouvernement. D'autres maintiennent toutefois leur mot d'ordre malgré l'interdiction des autorités. Des détails avec Yacouba Ouedraogo.
7 mouvements de la société civile sur les 8 organisateurs de la marche ont décidé de se retirer de la manifestation. C'est ce qu'a indiqué la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme qui, pour sa part, maintient son mot d'ordre de grève. Son secrétaire général, Mahamat Nour Ahmed Ibedou, a affirmé que le ministre de l'Intérieur, qu'ils ont rencontré mardi, les a suppliés de laisser tomber la marche et de lui accorder un sursis. 3 centrales syndicales ont apporté leur soutien à la manifestation, de même que le collectif IINA en est fatigué en arabe. Le ministre de la Sécurité Amadaï Abdelkerim Bakit dit avoir été clair dans sa mise en garde contre, je cite, « un soulèvement populaire qui entraînerait des casses », fin de citation, précisant dans une menace à peine voilée, je cite, « si malgré l'interdiction, Ibedou veut marcher seul, ça l'engage et il nous trouvera devant lui ». Les organisateurs de la marche veulent protester contre les mesures d'austérité et la hausse du prix du carburant.
Africom, le commandement américain en Afrique, examine des images postées sur Twitter et qui montreraient les corps présumés de soldats américains tués l'année dernière dans une embuscade au Niger. Africom tente de déterminer la véracité du tweet et les affirmations qu'il y a une vidéo associée, précise-t-on. La vidéo qui dure plus de 10 minutes a été diffusée par une organisation affiliée au groupe État islamique au Mali. L'embuscade du 4 octobre dernier a coûté la vie à 4 militaires américains, 4 soldats nigériens et un interprète près du village de Tongo Tongo. On attend les résultats d'une enquête sur cette attaque d'ici à la fin du mois.
Au Mali, les 37 gendarmes de la force spéciale arrêtés pour abandon de poste seront radiés. C'est ce qui ressort de leur audition au niveau de la police militaire de Bamako, les précisions de Kassim Traoré.
Arrêtés le 17 janvier 2018 en provenance de Gomakura, région de Ségou, les 37 gendarmes ont tour à tour été auditionnés par la police militaire. C'est à la suite des auditions que la hiérarchie militaire les a sanctionnés avec un libellé de punition. 50 jours d'arrêt de rigueur, traduction devant le conseil de discipline, ce qui veut dire qu'ils sont proposés à la radiation. Les motifs de cette radiation sont leur abandon de poste et indiscipline caractérisée. Les 37 gendarmes qui sont proposés à la radiation sont des éléments de la force spéciale de la gendarmerie formés grâce à une coopération entre les États-Unis et le Mali. Ils ont récemment participé à la présélection de l'examen de certificat inter-armes CIA. Ceux qui ont été admis à cette présélection devraient être autorisés à se rendre à Bamako, centre unique pour l'examen final. Fort malheureusement pour eux, ils ont été maintenus sur place sans autre explication. C'est pour cela qu'ils avaient décidé de revenir à Bamako pour en savoir plus avec la hiérarchie. Quand ils ont essayé de retourner à leur poste, ils furent désarmés et arrêtés pour abandon de poste Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leur impatience hier face au retard persistant dans l'application totale des clauses clés de l'accord sur la paix et la réconciliation au Mali. Ils ont souligné la nécessité urgente de donner des résultats tangibles et visibles pour les populations du Nord et d'autres parties du pays afin de préserver les acquis et la pertinence du dit accord en prélude aux élections prévues cette année. Selon la correspondante de la Voix de l'Amérique à l'ONU, si les partis en présence ne respectent pas leurs engagements avant la fin du mois de mars, le Conseil pourrait examiner la possibilité d'imposer des sanctions.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Donald Trump a assuré hier qu'il était prêt à être interrogé sous serment dans 2 ou 3 semaines par le procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. « Je le ferai sous serment absolument », a-t-il ajouté. M. Trump a répété qu'il n'y avait eu, selon lui, aucune collusion, aucune obstruction. M. Trump a cependant souligné que tout dépendra des conseils de ses avocats. Au-delà de la collusion avec Moscou, M. Mueller tente aussi de déterminer si le président américain s'était rendu coupable d'entrave à la justice.
En Suisse, des protestataires descendent dans les rues de plusieurs villes pour exprimer leur opposition à la participation du président Trump au Forum économique mondial de cette semaine à Davos. M. Trump doit y prononcer un discours demain, au lendemain de son arrivée. Il compte présenter aux leaders politiques et ceux du monde des affaires réunis à Davos son message « L'Amérique d'abord », qui, selon son administration, ne signifie pas repli sur soi.
Pour parler de paix sur la Syrie aujourd'hui et demain à Vienne, puis le 30 janvier en Russie, les Occidentaux craignent que le processus de l'ONU ne soit éclipsé par l'offensive politique de Moscou après sa victoire militaire sur le terrain. Les précisions de John Lyndon.
La pression est montée d'un cran depuis hier. Dernier espoir de paix a lancé le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Des pourparlers dans une phase critique a renchéri l'envoyé spécial des Nations Unies, Staffan de Mistura. À Vienne, représentants de l'opposition et du gouvernement syrien doivent reprendre leurs discussions sous l'égide de l'ONU après un énième constat d'échec en décembre. L'opposition s'était alors présentée pour la première fois unie, mettant un bémol à ses exigences de départ immédiat du président Bachar al-Assad, mais le régime de Damas avait refusé de dialoguer avec elle. Pour tenter d'arracher une avancée, l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, a mis à l'agenda le volet constitutionnel, moins sensible que celui des élections, et in fine, le sort du président syrien. Dans la foulée, le 30 janvier, des centaines de représentants syriens, y compris de la société civile, seront réunis dans la station balnéaire de Sotchi, sur la mer Noire, pour un dialogue initié par la Russie.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho. Eric Manirakiza.
Le cabinet d'analyse Economic Oxford Business Group affirmait que la chute des prix du brut a donné l'opportunité à l'Algérie de diversifier, de réformer son économie, notamment en développant le secteur privé. Les autorités algériennes ont lancé en 2016 un ambitieux plan prévoyant une croissance du produit intérieur brut hors hydrocarbures de 6,5% par an entre 2020 et 2030 et un doublement de la part de l'industrie manufacturière dans le produit intérieur brut pour atteindre 10% en 2030. Au Kenya, trois universités publiques veulent lever 200 millions de dollars pour construire des résidences universitaires. Ce financement vise à offrir une capacité d'accueil cumulée de 30 000 lits supplémentaires. Plusieurs autres établissements universitaires ont également demandé l'approbation du Trésor public pour financer des projets devant leur permettre d'augmenter leur capacité d'accueil de 60 000 lits. Le Burkina Faso et le Togo ont mis en place un projet d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers entre les deux pays. Il s'agit d'assurer l'interconnexion des serveurs des administrations douanières à Lomé et Ouagadougou pour permettre un contrôle rapide et une facilitation du trafic. L'UEMOA a mobilisé 400 millions de francs CFA à raison de 200 millions de francs CFA pour équiper chacun des deux pays.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaît les derniers pays qualifiés pour les quarts de finale du CHAN 2018.
Ce sont le Congo et l'Angola qui se sont contentés d'un match nul de 0-0 hier à Tanger, suffisant pour envoyer Diable Rouge et Palancas Negras en quart. Ce résultat a rendu anecdotique le match nul d'un but partout de l'autre rencontre du groupe D entre le Burkina Faso et le Cameroun. Fait d'aventure donc pour Étalon et Lyon indomptables qui n'ont plus que des leçons à tirer de cette compétition. C'est du moins ce que nous fait savoir le sélectionneur des Étalons locaux, Idrissa Malo Traoré, dit saboteur.
Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette compétition, notamment sur le plan de l'organisation du jeu, sur le plan des relations humaines. Et puis, l'enseignement aussi qu'on peut tirer, c'est que les jeunes qui sont avec nous présentement ont compris la leçon de la haute compétition. La haute compétition, il ne s'agit pas de savoir jouer au ballon, mais il faut savoir gérer un match sur tous les aspects.
Idrissa Malo Traoré, dit saboteur, s'est exprimé au micro d'Amine Birouk, notre correspondant au Maroc. Amine Birouk a aussi recueilli les propos du sélectionneur des Lions indomptables locaux, Rigobert Song.
J'ai au moins une dizaine de joueurs qui est nommé meilleur joueur du championnat. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel. Il y a quand même quelque chose d'important. C'était une valeur pour moi de démontrer que ces joueurs-là, ils le méritaient. C'est pour ça qu'ils sont là. Ça démontre tout simplement qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on prenne les choses au sérieux. Parce que pendant que nous, on pense qu'on est prêt, d'autres aussi veulent avancer. Donc peut-être qu'ils ont pris du volume avant nous. Nos championnats, est-ce qu'ils sont à la hauteur? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait les meilleurs choix du championnat. Après, il y a les réalités. Peut-être qu'on a trouvé plus meilleur que nous. Et il faudrait qu'on l'accepte. Il faudrait maintenant qu'on se remette au travail.
Rigobert Song, sélectionné des Lions indomptables locaux. La suite du CHAN, c'est le samedi 27 avec les premiers matchs des quarts de finale, Maroc-Namibie et Zambie-Soudan. Le lendemain, dimanche 28, on aura les oppositions Nigeria-Angola et Congo-Libye.
Le trophée de la Coupe du Monde a entamé un nouveau tour du monde et 12 villes africaines l'accueilleront.
Tout à fait, Idrissa, démarré le 23 janvier à Colombo, au Sri Lanka. Le trophée débutera son passage en Afrique à Khartoum, au Soudan le 22 février, puis à Addis Abeba en Éthiopie, Nairobi au Caire et Maputo au Mozambique. La Coupe passera dans deux grandes villes en Afrique du Sud, Johannesburg et Cape Town, puis continuera son périple à Kampala en Ouganda avant d'atterrir à Abuja puis Lagos. Ensuite, cap sur Dakar au Sénégal et Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette tournée sur le continent sera clôturée les 15 et 16 mars au Caire en Égypte. Donc, au total, 91 villes vont être visitées dans 51 pays et 6 continents. NBA, pour terminer, avec vous, Idrissa, quelques résultats de la nuit dernière.
New Orleans Pelicans et Charlotte Hornets, 101-96. Utah Jazz et Detroit Pistons, 98-95. Phoenix Suns et Indiana Pacers, 101-116. Chicago Bulls et Philadelphia Sixers, 101-115. Toronto Raptors et Atlanta Hawks, 108-93. Houston Rockets et Dallas Mavericks, 104-97. San Antonio Spurs et Memphis Grizzlies, 108 à 85.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'archevêque de Kinshasa, Mgr Laurent Mosengo, a dénoncé la répression par le gouvernement des manifestations organisées dimanche dernier par les laïcs catholiques à travers le pays. Le cardinal Mosengo, proche du pape François, est la cible des critiques des pro-Kabila qui disent que ce dernier n'incarne pas à lui tout seul les positions de l'épiscopat. Pour sa part, le pape François a réitéré mercredi son appel aux autorités de Kinshasa pour qu'elles évitent la violence et surtout les pertes en vies humaines. Pour une analyse du rôle de l'Église catholique dans la situation en RDC, John Lyndon a joint à Rome l'abbé Janvier-Marie-Gustave Yameogo, chargé du secteur francophone et du continent africain, au Conseil pontifical des communications sociales du Vatican.
L'Église a contribué à la recherche de la solution, les fameux accords de la Saint-Sylvestre. Et on se rend compte clairement que c'est comme si certaines autorités veulent rouler l'Église dans la farine et ne respectent pas leurs paroles. La seule chose qui reste aux chrétiens, c'est de marcher, de prier et de sortir avec leur chapelet, effectivement, pour dire non. Si nous nous sommes engagés sur la démocratie a des règles. Je pense que l'accuser l'Église de faire de la politique en ce sens-là, c'est exagéré parce que là, la situation est quand même assez claire, non?
Est-ce qu'il y a un espoir de paix et de transition politique pacifique en RDC à l'heure actuelle, à votre avis?
L'espoir, justement, l'Église s'est assise à la même table et l'Église a accepté de négocier. Il y a certains qui avaient prévu en disant non, l'Église, on est en train de vous utiliser et ces politiciens, ils vont vous faire perdre du temps. L'Église a cherché toujours à contribuer à la paix, au bien commun de la société. Et c'est dans ce sens-là que toute violence doit être condamnée. Et non seulement elle prie pour la paix, pour la réconciliation, mais elle demande à ses fils, et ce sont des chrétiens d'ailleurs qui sont devant et qui disent non, il faut marcher et réclamer maintenant que la vérité soit actée, la vérité dans les actes, pas simplement des reports et des reports. Le dialogue, c'est en vue de la vérité.
S'il y avait un appel à lancer aux autorités de Kinshasa, en un mot, ce serait lequel?
Personnellement, je pense qu'il faut quitter la mauvaise foi, être sur un chemin de vérité, et reconnaître que le temps qui était prévu pour préparer ces élections-là, les élections, est vraiment dépassé, reculé. Et maintenant, il faut appeler à une solution, j'allais dire dans le dialogue, en vue vraiment de la paix et surtout du bien commun de toute la société. Personnellement, je suis écœuré quand je vois que nous parlons beaucoup de paix. Nous utilisons parfois l'Église quand c'est nécessaire, mais quand l'Église exige que ça soit dans la vérité, que quand même quand on a donné une parole, qu'on respecte cette parole-là. Quand un mandat est fini, démocratiquement, le mandat est fini, oui ou non? Quand on joue les prolongations et on est en train de vouloir accuser l'Église, est-ce que vous pensez que ça c'est raisonnable? Et à la limite, c'est comme si on veut décrédibiliser l'Église, alors que l'Église est la seule force et la seule espérance maintenant pour toutes ces personnes-là.
C'était l'abbé Janvier-Marie Gustave Yameogo, joint au Vatican.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Tchad, 7 mouvements de la société civile sur les 8 organisateurs d'une marche prévue pour ce jeudi ont décidé de se retirer de la manifestation. C'est ce qu'a indiqué la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, qui pour sa part maintient son mot d'ordre. Cette convention bénéficie du soutien de 3 centrales syndicales et de celui du collectif IINA. Yacouba Ouedraogo a joint Mahamat Nour Ahmed Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme.
Nous avions été reçus par les deux ministres de la Sécurité et de la Justice. Mais eux, ce qui les intéressait, en fait, c'était l'annulation de la marche. Ça évoquait nos revendications.
Quelles sont ces revendications-là?
D'abord, globalement, c'est la mauvaise gouvernance. Ensuite, c'est la misère programmée par le régime lui-même, parce qu'ils ne s'occupent même pas de la vie chère. En plus du pouvoir d'État déjà réduit du travailleur tchadien, des coupes d'ombre sont opérées sur le traitement des travailleurs. De façon concomitante, les prix des denrées de première nécessité sont augmentés artificiellement. Le prix du carburant, l'interdiction du charbon de bois et bois mort pour obliger les citoyens à acheter le gaz domestique.
Pour ce qui est de l'abattement des salaires, le gouvernement a récemment renoncé à diminuer les salaires.
Interrogez les syndicats, vous verrez qu'ils ont été brisés. Parce qu'au moment où le ministre des Finances négocie avec les syndicats, le décret d'application de ces abattements se trouve déjà au service de la solde de fixer les états de salaire. Vous savez que les militants du syndicat sont en même temps travailleurs à la direction de la solde. Et les formations activités. Donc, ils ont quitté la table de négociation parce que le gouvernement les a grisés.
Dans vos échanges avec les deux ministres, celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre de la Justice, ils ne vous ont pas fait des propositions?
Aucune. Ils ne se sont engagés à rien. C'est simplement une injonction de ne pas marcher.
Le gouvernement dit que la marche est illégale et il l'a d'ailleurs interdite. Est-ce que vous ne craignez pas la répression des forces de l'ordre?
Tout à fait. Nous savons qu'elle aura lieu. Mais il faut bien qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un dise non à cet arbitraire. Vous savez que nous avions déposé un préavis de cette marche-là depuis le 4 janvier en indiquant nos itinéraires, nos lieux de regroupement, l'heure à laquelle on se rassemble, la destination. Ça, c'est une marche pacifique avec banderole et pancarte. Elle est autorisée par la Constitution. Mais eux, dès qu'il s'agit d'une marche de la société civile, ils l'interdisent systématiquement, pas réfléchir. Cette interdiction est irrégulière parce qu'elle est venue hors de l'air. Le gouvernement doit impérativement répondre à une demande de préavis d'une action, toujours prompt après le dépôt du préavis. Or, ils avaient déposé le 4, ils ont répondu le 22, ils sont hors de l'air. Ça, c'est un. Deux, cette interdiction, nous la considérons comme arbitraire parce qu'elle a simplement été publiée. Nous avons regardé ça à la télé comme tout le monde. En principe, comme nous sommes concernés, cette interdiction doit nous être jouée toujours. Ça n'a pas été le cas.
Et donc, votre marche de ce 25 janvier, elle est maintenue?
Oui, elle est maintenue. Nous avons demandé à nos points focaux de rester prêts à déclencher comme convenu la marche.
C'était Mahamat Nour Ahmed Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Sénégal, le chef rebelle du mouvement des forces démocratiques de Casamance, Salif Sadio, menace de rompre la trêve si l'armée poursuit ses opérations dans la région. Les militaires sénégalais ratissent une zone où opère un autre chef de la rébellion après l'assassinat de 14 coupeurs de bois. Faut-il prendre cette menace de Salif Sadio au sérieux? C'est la première question qu'Abdourahmane Dia a posée à Abdoulaye Sambou, journaliste basé à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal.
Oui, il faut la prendre au sérieux, d'autant plus que Salif Sadio est réputé être l'un des chefs de guerre le plus féroce et disposé en tout cas au dialogue. Depuis quelques années, c'est quelqu'un qui est retranché autour de sa zone, qui fait rarement de sorties et qui, quand il parle du Soma, ce sont des paroles qu'il faut prendre au sérieux. D'autant plus que depuis quelques temps, l'armée pilonne un peu les bases de ces guerres toutes bagatelles. Les vagues supposées être les zones où a eu lieu justement le massacre des 14 personnes au niveau de cette zone-là.
L'armée mène ses opérations dans la zone où opère, dit-on, l'autre chef de guerre, César Atout Badiat. Et pourquoi cette sortie de Salif Sadio, selon vous?
Je pense que Salif Sadio essaie aussi de montrer que, quelque part, lui aussi, il existe. Parce qu'au lendemain, justement, de ce massacre-là, le MFPC a sorti un communiqué dans lequel il précise que le MFPC est loin, très loin de ces massacres-là. Depuis lors, c'est vrai, il y a eu plusieurs arrestations qui ont été opérées. Alors, c'est vrai que Salif Sadio, il est loin de cette zone-là, mais Salif Sadio comme lui, il se proclame comme étant le chef d'état-major général justement de tous ces combattants du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Donc, il essaie aussi un peu de montrer qu'il est là et qu'à tout moment, il peut aussi brandir ses armes contre justement l'armée sénégalaise.
Dans ce climat-là, quelles sont les chances de poursuite du processus de paix qui se déroule à Rome en ce moment?
Oui, c'est là justement la grosse interrogation. Vous savez, on est resté depuis pratiquement 5 ans sans remous au niveau de cette zone-là. Est-ce que le MFDC ne va pas continuer justement à réclamer que les armes se taisent avant de continuer le processus de paix, encore que le chargé de mission Omar Ampouy-Bodian a été arrêté et placé sous mandat de dépôt? Tout cela vient compliquer en tout cas le processus de paix à Mona.
Et les populations, comment est-ce qu'elles voient tout cela? Est-ce qu'il y a une inquiétude d'une reprise des confrontations directes entre le MFDC et l'armée sénégalaise?
Mais c'est l'inquiétude, hein. C'est l'inquiétude parce que quand même depuis 5 ans, on n'a pas connu ça. Depuis 5 ans, il y a eu une accalmie dans cette région, surtout que c'est la période des récoltes.
C'était le journaliste sénégalais Abdoulaye Sambou, joint à Ziguinchor en Casamance.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Nous vous le disions hier, la fondation Bill et Melinda Gates apporte 23 milliards de francs CFA de soutien au secteur de la santé et de la nutrition au Burkina. Annonce faite par la coprésidente de la fondation qui a achevé hier une tournée dans certaines régions du Burkina Faso où Melinda Gates a pu s'enquérir des résultats obtenus des précédents soutiens. Notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon, fait le point.
Melinda Gates a fait le point de l'état d'avancement des projets financés par leur fondation dans plusieurs domaines dont la planification familiale, la santé et l'éducation. L'épouse de l'ancien patron de Microsoft a fait dans la sobriété en tournant sans les médias dans les zones où travaillent leurs partenaires. À l'issue d'une audience avec le président Roch Kabore, Madame Gates a exprimé sa satisfaction.
J'ai eu une visite fantastique au centre-ouest du Burkina Faso où nous avons visité des projets sur la nutrition, le planning familial et bien d'autres questions. Et nous annonçons 45 millions de dollars pour la nutrition, le planning familial. Parce que nous nous sommes rendus compte que si on investit dans la femme, elle contribue à faire sortir toute la famille de la pauvreté.
Un investissement sur 3 ans consécutif au progrès significatif fait par le Burkina Faso dans la lutte contre la pauvreté, la faim et pour l'amélioration de la santé. Pour la coprésidente de la Fondation, il est important d'aider les citoyens à mener une vie saine et productive et à travers nombre de sous-projets, souligne Melinda Gates.
Nous travaillons dans le domaine de la nutrition à travers un projet Life and Thrive et cela vise à éduquer les femmes sur l'importance de l'allaitement maternel. Cela permet à s'assurer de la santé des enfants et nous pouvons leur dire d'allaiter jusqu'à 6 mois. Après, ils peuvent ajouter un complément alimentaire. Nous avons également un important domaine qui est l'agriculture et là, nous mettons l'accent sur l'élevage de la volaille. L'appui aux femmes dans le domaine agricole est une priorité pour la fondation parce que en plus de la poterie, l'agriculture constitue un moyen économique important pour les femmes. Si on responsabilise les femmes, tout ce qu'elles gagnent, elles vont investir dans les enfants, leur santé, leur éducation.
Au cours de ces 2 dernières années, le gouvernement burkinabé a engagé plus de 50 milliards de francs CFA de fonds nationaux pour des soins gratuits envers les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et le Burkina a sollicité un appui dans certains points importants évoqués avec le président de la République, rappelle le docteur Nicolas Meda, ministre de la Santé.
Premier point, c'est par rapport aux hépatites virales. Dans le sud-ouest du Burkina Faso, la prévalence approche 14%. Le deuxième point, le cancer commence à devenir un problème dans la sous-région parce que c'est les femmes qui sont le plus concernées avec le cancer du col, le cancer du sein. Et elle a dit qu'elle accompagnait surtout la vaccination des jeunes filles contre le papillomavirus, qui est le virus qui entraîne le plus les cancers du col de l'utérus.
Un autre challenge pour Melinda Gates est de sensibiliser les femmes à s'approprier les méthodes contraceptives. La fondation Bill et Melinda Gates a investi entre 2001 et 2016 plus de 9 milliards de dollars en Afrique afin de réduire la pauvreté et améliorer la santé. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.